L'autre jour, je vous ai dit que l'annonce de l'évangile de Jésus mort et ressuscité pour nous, pour nos péchés, pour notre salut, selon les Écritures, donc l'Ancien Testament, c'est cela qui procure la foi, c'est cela qui engendre la foi, et c'est cette annonce de l'évangile. Ensuite, cette annonce de l'évangile qui a engendré la foi, immédiatement et simultanément, elle nous procure une nouvelle naissance. La venue du Saint-Esprit vient par la parole de Dieu. Et j'ai pris des textes pour bien le souligner. Pourquoi ? Parce que parfois on a cherché dans certains courants à trouver l'Esprit autrement, par d'autres moyens, par beaucoup de musique, beaucoup d'émotions, beaucoup d'impressions émotionnelles, et il ne s'agit pas de ça dans la Bible. Premier épître de Pierre, chapitre 1. Nous avons beaucoup aujourd'hui à voir dans la parole de Dieu, puisque j'ai perdu du temps mercredi, et j'ai un programme pour de longues semaines, et j'essayerai de le tenir avec vous avant que les congés ne viennent perturber nos messages, etc., pour un certain temps. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 23. Nous allons commencer au verset 22. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, » Jésus, hein, la vérité, « pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Rappelez-vous que ce que Jésus a dit, « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » On vous reconnaîtra ce signe, Jean, chapitre 13, verset 33 à 35. Donc c'est ce verset 22 qui est l'expression et l'équivalence biblique de Jean, chapitre 13, verset 33 à 35. Alors, 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, je lis maintenant le verset 23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc, c'est la parole de Dieu, celle de l'Évangile, qui donne la régénération, qui donne le don du Saint-Esprit. C'est clairement dit par l'apôtre Pierre. « Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Donc vous voyez, Evangelium, bonne nouvelle, celle de Jésus mort et ressuscité pour notre salut. Allons un peu plus loin, dans Éphésiens chapitre 1. Enfin, pas plus loin dans la Bible, mais puisque ça, c'est un peu avant. Éphésiens, chapitre 1, versets 13 et 14. Éphésiens 1, versets 13 et 14. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, donc de Jésus-Christ, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, par le sang de Jésus à la croix, bien sûr, à la louange de sa gloire. » Donc vous voyez, c'est le même fondement pour recevoir le même bagage, je vais dire, la parole nous explique que c'est la parole qui engendre le don du Saint-Esprit. Si nous allons dans Galates, chapitre 3, Galates, chapitre 3, versets 1 à 5, il y avait dans ces églises du centre de la Turquie, en Galatie, un débat. On voulait retourner à la loi de Moïse, à la circoncision, au Shabbat, etc. Un petit peu comme les adventistes ont fait. Et pratiquement, même peut-être en plus fort. Mais ce qu'il y a, c'est que Paul combat cette tendance de retour à la loi qui n'amène pas le salut. Il l'explique dans toute l'épître aux Galates. Alors il dit ceci. Chapitre 3, verset 2. « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi, l'obéissance aux 10 commandements, que vous avez reçu l'Esprit Saint ou par la prédication de la foi ?» Et puis un peu plus loin, verset 5. « Celui qui vous accorde l'Esprit Saint et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ?» Donc celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, et qu'on ne voit pas, c'est Jésus-Christ ressuscité, C'est bien sûr le Christ ici. Le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Quand, dans une église, on croit en Jésus-Christ, qu'on a une relation vivante avec Jésus-Christ, et qu'on prêche Jésus-Christ, qu'on prêche sa parole, et rien d'autre, le Saint-Esprit et la foi sont communiqués aux auditeurs. Et si de nouveaux auditeurs sont là, il est normal qu'ils reçoivent aussi la foi et le Saint-Esprit. La foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains, nous allons voir au chapitre 10. Romains, chapitre 10. Ce sont des choses élémentaires, mais qui ont été tellement bâclées, tellement abîmées, dans les courants depuis 80 ans. Il faut faire attention. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. C'est bien sûr extrêmement important de garder ce verset dans notre cœur, dans notre esprit, pour ne pas se laisser influencer, égarer, dans certains types d'assemblées qui voudraient que le Saint-Esprit vienne par le prédicateur, vienne par certaines musiques, certains chants, etc., et avec des phénomènes un peu spéciaux. Nous allons maintenant dans la première épître de Jean, chapitre 1. Première épître de Jean, c'est après l'épître aux Hébreux, après Jacques et après Pierre. Première épître de Jean, chapitre 1. Verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, donc c'est Jésus-Christ lui-même, la personne incarnée de Jésus de Nazareth. Car la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Par son incarnation, la parole en Jésus de Nazareth, le Christ est venu sur terre pour s'adresser à nous. Et rappelez-vous ce que Pierre a dit. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce qui revient à ce que Jean vient de dire ici. Alors, verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Si nous allons un peu plus loin, si nous continuons à lire, vous allez voir, c'est intéressant. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. L'adhésion à la parole de Dieu permet et est automatiquement une purification en Jésus-Christ. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc la base de l'adhésion à la parole de Dieu se fait sur un terrain d'un pécheur qui a compris sa nature pécheresse et qui veut bien sûr changer de cap, changer d'état. Pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit, il faut avoir le désir d'être autre chose que ce qu'on est. Ce n'est pas de la réformation, ce n'est pas de l'amélioration que Jésus est venu apporter. C'est un bouleversement complet, c'est une régénération. C'est refaire une autre espèce d'homme, une autre espèce de femme, par le don du Saint-Esprit. Donc, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Alors, évidemment, il faut bien se rendre compte que c'est la base, ce qu'on vient d'entendre, c'est la base. Et je vais à la fin du chapitre 2, au verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, donc de Jésus-Christ, en entendant sa parole, et au moment où on entend la parole, l'évangile, Christ agit en nous, eh bien, Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. L'onction, c'est le don du Saint-Esprit. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Cela est tout à fait un parallèle avec Jean chapitre 16 et chapitre 14, où Jésus promet le Saint-Esprit, le Consolateur, qui enseignera toutes choses, tout ce que Jésus a dit, et qu'il le rappellera et qui enseignera les choses à venir. Et c'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Allez voir dans Jean chapitre 14 et chapitre 16. C'est des bases évidentes, plus qu'évidentes, pour connaître ce que Jésus a promis. C'est le Saint-Esprit, mais c'est les qualifications du Saint-Esprit, la fonction du Saint-Esprit, la compétence du Saint-Esprit qui est aussi définie par Jésus. Et cette compétence et cette autorité du Saint-Esprit n'est pas définie depuis 80 ans dans des courants qui se prétendent du Saint-Esprit. Elle est définie par Jésus. C'est seulement Jésus qui définit l'autorité du Saint-Esprit. Et c'est seulement lui, Jésus, qui confère le Saint-Esprit. Depuis 2000 ans, le Saint-Esprit a touché des cœurs. Et nous n'avons pas nous laissé égarer par des courants qui voudraient faire croire que le Saint-Esprit n'était pas là avant. Prenons les Actes des Apôtres au chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10. Versets 44 à 48. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 44 à 48. Versets 44 à 48. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, donc de l'Évangile. Vous lisez les versets qui précèdent, hein, à partir du début de sa prédication. Hein, au verset 34, il y a sa prédication. Mais moi, je dois faire un peu plus court. Je commence au verset 44. Quand Pierre annonçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole de l'Évangile par la bouche de Pierre. Tous les fidèles circoncis, donc d'origine juive, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, donc des gens qui ne sont pas d'origine juive et qui entendent l'Évangile. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, Jésus évidemment, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Quoi faire pendant quelques jours? C'est pas pour se payer de bons repas et se distraire, aller à la plage et se dorer au soleil. C'est simplement que toujours, toujours, la préoccupation des apôtres, c'est d'enseigner la parole, de faire connaître l'Évangile, de l'expliquer en reprenant comme Jésus l'a fait après sa résurrection, Moïse, les psaumes, les prophètes. Pour montrer les fondements de la venue de Jésus, le fondement de sa mort et de sa résurrection, le fondement du salut en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il reste quelques jours. Donc il y a toujours un parallèle, un corollaire entre la parole et la venue du Saint-Esprit. Un ne va pas sans l'autre. Prenons le chapitre 11 des Actes des Apôtres au verset 15. Ici, il est devant les frères en Judée qui lui posent des questions et qui ne comprennent pas pourquoi des païens reçoivent le Saint-Esprit. Ils étaient à peu près convaincus, ou peut-être pas tous, mais en tout cas la plupart, que le Saint-Esprit n'était donné qu'au peuple juif qui acceptait Jésus. Mais voilà qu'on a appris que Pierre avait baptisé des non-juifs et la même chose Paul. Et donc il y avait un brouhaha, des rumeurs, etc. Il fallait mettre les choses au point. Alors il explique ce qui s'est passé, ce qu'on voit dans le chapitre 10. Chapitre 11 des Actes, verset 15. « Lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement, c'est-à-dire à la Pentecôte. Je me souvins de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Ils aient la vie éternelle, dans le Saint-Esprit, évidemment, et dans la foi. Et donc, vous voyez, vous pouvez lire avec curiosité tous ces chapitres 10 et chapitre 11, vous serez étonnés de la façon dont ça s'est produit. Ça s'est passé tout simplement, comme ça se passe encore aujourd'hui dans certains pays, dans certaines localités. Il y a des cœurs comme ça qui acceptent le Seigneur. Quand je suis allé au Bénin et que j'ai prêché la première fois pendant 10-12 jours, j'ai prêché devant de grandes assemblées. Et il y avait bien sûr des personnes qui venaient, qui n'étaient pas chrétiennes. Et quand je faisais l'appel à la conversion, après avoir présenté toujours l'homme ancien et l'homme nouveau, la régénération, et l'œuvre de Dieu à la croix, je tenais à cela. Les pasteurs voulaient toujours que je prêche la guérison, la délivrance, des choses pareilles. Je l'ai peut-être fait après, mais pas tout de suite. J'ai d'abord donné les fondements de la foi. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais annoncé l'évangile et demandé si quelqu'un voulait naître de nouveau, devenir chrétien, il y avait tout de suite, les premiers jours, des dizaines de personnes qui venaient. Et au fur et à mesure des jours, c'était beaucoup plus. Je rends gloire à Dieu d'avoir vu ça. Parce que je me suis rendu compte que ce qui est dans les Actes des Apôtres se produit encore aujourd'hui. Et je suis reparti en Belgique heureux, parce qu'en 10 jours, 12 jours, j'ai vu ce qui pourrait ici prendre parfois un siècle ou deux. C'est difficile, le terrain n'est pas le même, mais il est clair que l'annonce de l'Évangile touche les cœurs, touche les âmes, les esprits, et peut permettre à ces âmes de recevoir le Saint-Esprit si elles le désirent vraiment. Aujourd'hui, avec le coronavirus, aujourd'hui, peut-être avec d'autres épreuves qui vont suivre encore, y a-t-il des personnes qui vont s'ouvrir de la même façon ? Et nous souhaitons que des personnes reviennent à Dieu, surtout à la vérité biblique, à la régénération, ce qui est l'essentiel, la mission finale, la pointe du sommet, si vous voulez, de la montagne, de l'Everest. C'est la finalité, c'est la mission de Jésus de nous conférer le Saint-Esprit, nous baptiser du Saint-Esprit. Donc, n'oublions pas. Donc, quand nous entendons parler que quelqu'un impose les mains pour donner le Saint-Esprit, etc., que certaines assemblées en imposent les mains pour le donner, il faut toujours être prudent. Ce n'est pas impossible. Nous allons aller dans Actes des Apôtres, au chapitre 9. Verset 17. Ce n'est pas impossible, mais c'était assez rare, c'était exceptionnel. C'était dans certaines circonstances qui ne doivent pas se répéter à tire-larigot par répétition, ici, comme une mode. Actes, chapitre 9, verset 17. Ananias sortit lorsqu'il fut arrivé dans la maison. Dans une maison où se trouvait Saul de Tarse, aveugle et misérable, qui attendait une délivrance, qui attendait le salut. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Après qu'il eut pris de la force, de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, où aussitôt il prêcha dans la synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Donc nous voyons que dans Damas, il va commencer tout de suite à parler du Seigneur Jésus qu'il a vu, qu'il a connu. Il a eu une révélation extraordinaire, mais il a reçu le Saint-Esprit. Connaître Jésus ne suffit pas, il faut être régénéré. Et après, nous voyons dans Galates qu'il part 3 ans en Arabie. Il a choisi d'aller prêcher l'évangile aux Arabes, en priorité. C'est révélateur pour nous aujourd'hui. Ne jamais oublier notre mission, de faire de la même façon pour le peuple arabe. Et tous ceux qui en descendent. Alors, nous allons prendre un autre texte, c'est au chapitre 8, verset 15. Je commence au verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, donc l'annonce de l'Évangile, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Pourquoi ? Parce que, figurez-vous que Philippe, dans son emportement ou dans peut-être sa méconnaissance encore dans le ministère, a fait quelque chose qui est incomplet. Regardons au verset 12. « Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Mais ils ont été baptisés comment ? Au nom de Jésus-Christ. Et vous savez bien ce qui est mis dans Matthieu, chapitre 28, 18 à 20, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il faut avoir expliqué et enseigné qui est la Trinité. Et non seulement Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. Donc il faut avoir une doctrine de Dieu complète à présenter à ceux qui veulent se convertir, et pas une demi-doctrine. On ne peut pas reprocher ça à Philippe, c'est sans doute que ça a été plus vite qu'il ne pensait, que les gens étaient empressés, etc. Toujours est-il que les apôtres, à cause de cela, viennent pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Verset 16, chapitre 8, verset 16, « Il n'était encore descendu sur aucun d'eux, il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. » Vous avez vu ? Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et reçurent le Saint-Esprit. Et on va s'arrêter là, parce qu'après, il y a un magouilleur qui veut donner de l'argent pour avoir des dons spéciaux. Pratiquement, vous voyez bien que ce sont des cas rares où, par imposition de main, le Saint-Esprit est donné. Ce sont des cas rares. Et il faut faire attention, quand on voit imposer les mains à tirer l'arigot, en quatrième vitesse, sur des gens, dès qu'ils ont entendu deux, trois versets, entendu de la musique, etc., qu'il y avait une bonne ambiance, ils s'avancent pour se convertir, et puis on impose les mains. Regardons dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 22. Croyez bien que je n'ai aucune animosité contre ceux qui se permettent ça, mais moi je n'oserais jamais. Je considère cela comme une offense magistrale à la vérité biblique, donc à Dieu. 1 Timothée, chapitre 5, verset 22. S'il m'est arrivé d'imposer la main une fois ou deux, ce n'était pas pour le nom du Saint-Esprit. C'est parce que nous étions tous en train de prier dans l'église pour que cette personne soit guérie d'une maladie ou qu'elle soit tout simplement débarrassée d'une œuvre démoniaque, mais c'était avec prudence et avoir l'unanimité de l'église et de la prière. Et en faisant bien attention au texte biblique qui convenait. Alors, 1 Timothée, chapitre 5, verset 22. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même conserve-toi pur. Donc, vous voyez, n'impose pas les mains avec précipitation, puis alors, dans la même parole, ne participe pas au péché d'autrui. Il y avait donc des gens qui imposaient vite les mains, etc. Et déjà, Paul considérait ça comme un péché, une désobéissance à Dieu. Et il dit, ne participe pas à ce type de péché. Toi-même, conserve-toi pur. Tiens-toi à distance de tout cela. Avec tout cela, ce que je vous ai dit, vous avez compris que l'essentiel de la vérité biblique tourne autour de l'autorité de la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que la puissance du Saint-Esprit vient sur les personnes. Deuxième aux Corinthiens. Chapitre 13. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 13. Verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 8. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, donc l'évangile. La pure annonce de l'évangile, mort et résurrection de Jésus pour nos péchés, selon les Écritures. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Donc, il y a une limite, un cadre dans lequel la puissance de Dieu peut s'accomplir à travers le témoignage, la prédication d'un pasteur, d'un missionnaire, etc., c'est qu'il se limite à la vérité. C'est clair. Il m'a fallu, moi qui étais catholique, qui avait été prêtre ouvrier et qui avait beaucoup cru dans le Seigneur Jésus, à 40 ans, je vivais quelque chose de terrible en moi. Depuis l'âge de 16 ans, j'aimais Jésus. Et comme je l'aimais à fond, j'avais été faire le séminaire et j'avais été prêtre. Et puis comme j'aimais vraiment les hommes et je voulais leur annoncer à ceux qui n'y allaient pas dans les églises, qui ne pratiquaient pas des rites, je voulais aller dans les usines, sur les chantiers, j'étais donc prêtre ouvrier. Puis par la suite, dans le syndicat, dans les groupes autogestion, dans tous les groupes alternatifs, etc., les mouvements de la paix, les mouvements écologiques, jusqu'au jour où je me suis rendu compte de toutes les personnes que j'avais rencontrées, personne n'était né de nouveau, et si je mourais, personne ne continuait à aimer Jésus et à proclamer l'évangile. J'avais une terre déserte derrière moi, je n'avais rien semé que sur les rochers, et dans les buissons d'épines, et des mauvaises graines. J'ai demandé à Dieu, mais pourquoi Seigneur? J'étais triste. Ça fait 26 ans que je crois, et je n'ai pas pu amener quelqu'un à la régénération. C'est un immense échec pour moi. Pourtant, j'étais zélé. Je croyais profondément, et avec beaucoup de générosité, de la passion et de la compassion. Et je suis tombé sur ce verset de 2 Corinthiens 13, 8 et j'ai compris que je mélangeais le vrai évangile avec des doctrines catholiques qui ne sont venues des conciles, des hommes, etc. Je mélangeais des vérités autogestionnaires et néo-socialistes et humanistes et je faisais un tout. C'était un cocktail. Est-ce que c'était l'évangile social, l'évangile, la théologie de la libération? Écoutez bien, ce n'était pas l'évangile. Il a bien fallu ce jour-là, tout seul dans mon cœur, que j'admette devant le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, c'est foutu, 26 ans perdu. Tu viens de me montrer le néant. Et je comprends ce verset. Mais maintenant, Seigneur, il faut que tu me conduises dans le chemin de la vérité. Et c'est là, à partir de ce moment-là, que des chrétiens évangéliques sont apparus. Et que j'ai baissé la tête. J'ai baissé la tête de manière à revoir toutes mes leçons et à trier le vrai du faux. Parce que j'avais plein de choses dans la tête. Tout s'était rempli. Et donc, il fallait vider, trier et ne garder que ce qui était fondé bibliquement. Et vous voyez, ça a été quelque chose de formidable. Dieu, dans sa grande clémence, sa miséricorde, a permis que je vienne vraiment à lui. Et que je me mette en ordre. Les amis, aujourd'hui, pour le don du Saint-Esprit, pour la régénération, si vous aimez voir des autres qui naissent à nouveau, qui sont vraiment des enfants de Dieu, vous devez être exact dans votre témoignage, dans votre enseignement de la parole. Exact pour vous-même, exact pour les autres. Je n'ai pas dit fanatique et rigoriste et légaliste et cassant. Il faut parfois être nuancé, il faut parfois être patient, savoir attendre, il faut vérifier si la personne a compris, employer les mots qui conviennent. Mais il faut se garder d'aller au-delà de ce que Dieu a dit et ne pas en retirer non plus. C'est extrêmement important. Donc pour le Saint-Esprit, fidélité à la parole, fidélité à la Bible, amour de la Bible et de la parole. Incarnation de la Bible, de la parole en nous. Alors, Dieu, Jésus aussi, son Fils, nous a laissé le choix de demander le Saint-Esprit et de le recevoir. Il n'y a jamais eu d'obligation. Et partant du principe que nous sommes des témoins, nous n'allons pas commencer à matraquer les gens avec des versets bibliques et à faire du forcing. Regardez bien, Luc 11, Luc 11, versets 5 à 13. Jésus leur dit encore, Luc 11, versets 5 à 13, « Sinon avez-vous un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prenne-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, je n'ai rien à lui offrir. Si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous dis, quand même, il ne se lèverait pas pour les donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de l'importunité. Il lui donnerait tout ce dont il a besoin pour avoir la paix, pour que l'autre s'en aille. Donc il n'y a pas d'amour. Si un tel homme donne du pain à son ami, mais sans amour, c'est bien la preuve que c'est un pécheur, comme nous le sommes. Nous, parfois, nous sommes dérangés par les autres. Nous sommes dérangés. Ils ont besoin de Dieu. Et parfois, nous avons bien du mal de les supporter, de faire le pas vers eux, quand nous voyons quelqu'un sur le trottoir, dans le magasin. Il y a parfois qu'on attrape des boutons, comme on dit, et on s'écarte. Ou, c'est pas la tête qui me revient, c'est pas le genre qu'il me faut, ou celui-là c'est pas un brave, ou celui-là c'est un dangereux. Et alors, on ne donne pas ce qu'on pourrait donner. On a cette attitude-là, et il faut faire attention, parce que là nous voyons que même cette personne qui n'a pas un bon cœur a donné. Il faut se remettre en question. Regardons un peu plus loin. Et moi je vous dis, demandez, il en vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, il en vous ouvrira. Vous demandez quoi? Eh bien, regardez, c'est pas compliqué au verset 13, « Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Quand quelqu'un a besoin du Saint-Esprit, il doit le demander à Dieu, et vous devez lui exprimer l'amour de Dieu, vous devez lui montrer la compassion de Dieu, que Dieu veut en faire son enfant, et qu'il ne veut pas le laisser orphelin, il ne veut pas le laisser sans Saint-Esprit. Vous faut-il jeûner et prier, parfois, pour que cet homme, cette femme, cet enfant, ce vieillard, reçoive de bon cœur, entièrement, sans retenue, sans regret, sans calcul, sans intérêt, reçoive Dieu dans sa vie, reçoive le Saint-Esprit qui le dirigera pour l'éternité. Faut-il? Peut-être, oui. Nous, chrétiens, nous avons à prier, nous avons à intercéder pour tous ceux qui viennent toquer à nos portes, que nous rencontrons sur les rues, que nous voyons parfois même sur photo, dans les journaux, pour qui nous pouvons prier. Dieu est capable de donner à nous qui sommes mauvais, le Saint-Esprit, ce qu'il a de meilleur au cœur de la Trinité. Il est capable de le donner. Donc nous ne pouvons pas nous opposer au plan de Dieu. Nous devons nous inscrire dans la mouvance de Dieu, dans la mouvance de Jésus, dans la mission de Jésus, dans le ministère de Jésus, pour que le Saint-Esprit soit conféré dans le monde. Non pas par l'imposition des mains, mais par l'annonce de l'Évangile. Alors, quiconque demande, reçoit, celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Inspirez confiance aux hommes et aux femmes, même aux pires, parfois, qui vous effraient, qui vous impressionnent. Dites-leur que Dieu ne refuse pas un pécheur. Dites-leur que Dieu efface les péchés. Lisez le psaume 32, « Heureux celui à qui Dieu n'impute pas son péché, efface ses transgressions. » Psaume 32. Et si vous montrez ce psaume, si vous montrez l'état de Paul dans lequel il était, si vous montrez la trahison de Pierre, et vous voyez quel amour Jésus a eu dans Jean chapitre 21 pour aller le rechercher. Nous pouvons montrer aux hommes et aux femmes qu'ils doivent toquer à la porte de Dieu et demander le meilleur, le Saint-Esprit. Nous avons parfois l'habitude, quand nous rencontrons quelqu'un, il est en mauvaise santé, il a des soucis d'argent, des soucis de couple, etc., ou des retours de manivelle d'une enfance un peu boiteuse. Nous avons toujours l'habitude, souvent, de prier pour des problèmes concrets, des problèmes matériels, des problèmes psychologiques. Mais le gros problème de l'homme, c'est que le Saint-Esprit n'est pas dans sa vie, c'est que la vie divine n'est pas dans sa vie. Le gros problème, c'est celui-là. Il peut encore être guéri d'un rhumatisme parce que vous avez prié, si Dieu vous a donné ce don. Il peut être guéri d'une névrose si vous avez ce don de prier et de jeûner pour lui. Mais ce qu'il y a, va-t-il aller au ciel pour cela? Donc l'essentiel de notre ministère, c'est d'être auprès des personnes pour les inviter à venir auprès de Dieu, toquer à la porte du Seigneur et demander le Saint-Esprit, demander la nouvelle naissance, la régénération. Et il est de notre tâche de leur annoncer ce qu'a fait Jésus pour eux. Jean 3, 16, Dieu a donné son Fils, Jésus-Christ.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils.
Oui, il a tant aimé le monde.
Il a donné son Fils unique afin que quiconque,
quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà la base de notre œuvre, de notre ministère à nous chrétiens. Bon, maintenant, les paraboles de Jésus dans Matthieu 13, Matthieu 18, Matthieu 25 sont d'une richesse énorme et j'aimerais bien y revenir dans les semaines qui viennent. Mais clairement, nous voyons que dans Matthieu 13, la première parabole, c'est la parabole où la semence est jetée dans le bon champ, sur le chemin et dans les buissons d'épines. Un buisson d'épines, la semence pousse et puis les épines l'étouffent. Les convoitises du monde, les soucis du monde, les affaires, etc., l'affairisme. Sur le chemin, deux problèmes se présentent. La semence pousse, mais le sol est tellement dur, c'est tellement sec, que pour finir, la semence a peu poussé et elle périt. Puis il y a l'autre problème, si elle n'a pas poussé, c'est les oiseaux, les corbeaux, les moineaux qui viennent voler. Le malin qui vient voler à part le Dieu dans le cœur des hommes qui ont entendu, mais ils n'avaient aucune persistance. Et puis il y a la bonne terre. La bonne terre, et dans Matthieu 13, on voit qu'il y a des hommes et des femmes qui reçoivent la bonne parole parce qu'il y a un cœur honnête. Dans Luc, il y a une explication un peu plus longue. Ils ont accepté la parole avec un cœur bon, honnête et persévérant. Ça, c'est une chose. Mais quand on voit la situation des différentes terres, je reçois ou je ne reçois pas? C'est ça l'enseignement. Je reçois la parole de Dieu et l'Évangile. Je le reçois ou je ne le reçois pas. Si je veux que ça pousse, il faut aussi que je reçoive le Saint-Esprit. Si je veux que la semence grandisse, il faut, pour que ce soit une bonne terre, que l'œuvre du Saint-Esprit soit là. C'est pas moi la bonne terre. C'est le terrain du Saint-Esprit qui est la bonne terre pour que la parole en moi porte des fruits. Ce n'est personne qui est la bonne terre. Nous sommes tous des pécheurs. La bonne terre, dans la vie de celui où la parole de Dieu est gardée avec honnêteté, persévérance et porte du fruit, c'est la terre qui a reçu le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la base de la bonne terre. Ce n'est pas l'être humain. L'être humain ne sert à rien. Vous rappelez-vous dans Jean chapitre 6, versets 35 et 63, Jésus dit « La chair ne sert de rien, c'est l'Esprit qui vivifie. » Donc, ne comprenons pas cette parabole de travers, en considérant qu'il y a des hommes qui ont des capacités de recevoir la bonne parole de Dieu et d'autres pas. C'est pas ça le message. Le message, c'est que la bonne terre est celle qui est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit dans mon âme qui fait que la parole de l'Évangile va pousser, croître et porter ses fruits. Donc, le Saint-Esprit est à la base de ma rédemption, de ma sanctification perpétuelle tous les jours, et de mon accroissement spirituel, de mon perfectionnement. Et rien ne repose sur la chair. Si nous croyons que c'est sur la chair, que c'est sur nous-mêmes, ça c'est la deuxième parabole. C'est la parabole où il y a le livret. Quand Jésus explique la parabole du blé et le livret qui pousse en même temps, et qui ne veut pas que les moissonneurs, les ouvriers, arrachent l'ivraie, sous peine d'arracher le blé, eh bien, pourquoi? Parce que cet ivraie-là, ce sont des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne laissent pas agir le Saint-Esprit dans leur vie, qui peut-être ne l'ont même pas reçu, ou en tout cas, même, s'ils ont aperçu l'œuvre du Saint-Esprit, quelque temps, ils l'ont renié, ils l'ont refusé. Et donc, ce sont des chrétiens selon la chair. Et dans la même chrétienté, il peut y avoir des chrétiens selon la chair et des chrétiens selon l'esprit. La parabole du blé livré, c'est cela. Et qu'est-ce qui me fait dire cela en plus? C'est Galates chapitre 4, verset 29. Si vous allez dans Galates chapitre 4, verset 29, vous allez voir que Paul nous éclaire solidement sur la réalité spirituelle de la chrétienté déjà au 1er siècle. Hein. Chapitre 4, verset 29. De même qu'alors celui qui était né selon la chair, donc humain, adamique, persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Donc il y a une réalité que Jésus a annoncée pour la suite dans l'Église, c'est qu'il y aurait des personnes ayant accepté le Saint-Esprit et faisant croître les fruits de la bonne parole du message de l'Évangile dans leur vie, et puis il y a des personnes qui se réclament de Jésus-Christ et qui restent, vivent selon la chair, qui sont amis d'eux-mêmes, fanfarons, orgueilleux, sensuels, qui ont l'apparence de la piété, comme dit Paul à Timothée, hein, et qui n'ont que l'apparence de piété. Et ceux-là persécutent ceux qui sont fidèles à la parole de Dieu et transformés quotidiennement par le Saint-Esprit. Il y a donc un conflit spirituel au sein même de ceux qui se disent chrétiens. C'est ça la parabole du blé livré. Et ce verset de Galates, chapitre 4, verset 29, nous montre bien que ce n'est pas de la rigolade. Ça se perpétue encore aujourd'hui. De même qu'alors celui qui était né selon l'humain, la chair, persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Nous avons donc une réalité, c'est nous sommes dans le royaume de Dieu aujourd'hui, en Jésus-Christ, par la parole, avec des frères et des sœurs. Il peut arriver que dans la même église ou dans nos fréquentations avec d'autres chrétiens, d'autres églises, il peut arriver que tout d'un coup on ait des conflits, des différends, sans les avoir cherchés. Et qu'il y ait des personnes même qui veuillent nous détruire, ou détruire l'église. Et pourtant, ils ont été peut-être baptisés, ils ont peut-être confessé Jésus. Mais tout cela n'est pas toujours la réalité spirituelle. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Ils m'ont dit « Seigneur, 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 mais je leur dirai, quand ils se présenteront devant moi, à rire de moi, je ne vous ai pas connu. Vous n'avez pas vécu avec moi. Vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. Vous avez vécu dans l'iniquité. » Donc il se présentera des gens devant Jésus quand il reviendra, et un sera repris, l'autre pas. C'est tout le thème des brebis et des boucs, du blé livré, etc. Donc Jésus n'a pas annoncé les choses faciles pour nous, mais il a annoncé que la vie dans l'Esprit Saint, la vie divine, était acquise aujourd'hui pour celui qui acceptait humblement de vivre selon la volonté de Dieu et qui refusait l'autorité du péché. Voilà, ça c'est important. Donc, voyons notre responsabilité, voyons si nous avons accepté réellement l'œuvre du Saint-Esprit en nous, ou si nous n'avons que la prétention, le masque, et puis il n'y a rien derrière, dans le cœur. Voyons aussi, il y a bien sûr, dans le monde, il y a eu des responsables chrétiens et des responsables non chrétiens qui ont invité le monde à dominer sur les chrétiens. On a dominé, piétiné les chrétiens. Les chrétiens selon l'esprit ont été piétinés. Le pasteur Von Brandt en Roumanie, lorsqu'il y avait le communisme, il a dit que des gens desquels j'ai le plus souffert, ce sont des chrétiens qui m'ont trahi, qui m'ont dénoncé, qui ont inventé du mal sur moi. Et cela, c'est donc une réalité. Il faut savoir qu'il peut y avoir dans des responsables chrétiens, même dans des chrétiens, dans des proches, il peut y avoir des gens qui sont doubles et qui ne cherchent pas à vivre selon le Saint-Esprit, mais qui cherchent à dominer, à régner sur les chrétiens et à utiliser la parole de Dieu pour leur fin. Et ils blasphèment contre l'Esprit-Saint, évidemment. C'est un blasphème contre l'Esprit-Saint qui ne sera pas pardonné. Il s'attaque à l'œuvre même de Dieu, à son Église en faisant cela. Donc nous chrétiens qui avons reçu l'Esprit Saint, nous chrétiens qui avons le profond désir d'appartenir à Jésus-Christ et de vivre dans le Saint-Esprit, nous apprenons tous les jours à résister aux assauts spirituels. Et nous apprenons à vivre comme Christ et à laisser l'Esprit de gloire régner sur nous, même si nous souffrons. Même si nous souffrons. Nous aimons une Église sans gloire. Nous aimons une Église sans puissance, comme l'Église de Philadelphie au chapitre 3 d'Apocalypse, parce qu'elle a gardé fidèlement la parole de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 3, Dieu lui garde la porte ouverte. Et elle permet même à ce type d'église d'évangéliser le monde et les juifs, finalement, à la fin des temps. Donc, l'église humble qui vit dans le Saint-Esprit et qui porte le témoignage est celle que Jésus aime par excellence, parce qu'elle ressemble à lui, lui qui était sans gloire, qui vivait humblement. Lisez Ésaïe 53, vous verrez. Il n'impressionnait personne. Il n'avait pas une belle allure, etc. Mais son cœur était noble, rempli de gloire. Ça, c'est différent. Par le choix de mon église, par le choix de mon type de vie, je me présente déjà à Dieu tous les jours. Et Dieu voit si je suis fidèle. Par le choix de mon église, par le choix de mes lectures, par le choix de mes fréquentations, par le choix de mes prières, j'opte pour l'église de Jésus-Christ, ou je renonce et je choisis une église sans Jésus-Christ, comme l'église d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 1. Une église brillante, pleine d'œuvres, qui n'a plus de relation avec Jésus-Christ, n'a plus d'amour pour lui. Lisez ce que l'Esprit Saint dit à l'église d'Éphèse dans Apocalypse, je pense que c'est la fin du chapitre 1 ou au chapitre 2. Nous sommes donc confrontés à un choix, tous les jours, à discerner et à choisir. Regardons le psaume 16, verset 3. Le psaume 16, verset 3. C'est une parole formidable qui est impressionnante par sa simplicité. Psaume 16. Verset 1 à 3. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux et les femmes pieuses, hein, sont l'objet de toute mon affection. Vous avez vu que le cœur qui est habité par le Saint-Esprit va discerner et il reconnaît ceux qui sont véritablement pieux, c'est-à-dire en relation vivante avec Jésus-Christ, qui ont un temps de prière, de requête envers lui, un temps d'adoration, un temps d'intercession auprès de lui, qui ont un temps dans la parole de Dieu, et qui ont un comportement, bien sûr, conséquent à ces temps de prière et à cette fréquentation de la parole de Dieu. Donc, je recherche les saints qui sont dans mon pays. Je ne m'accoquine pas avec des faux saints, avec des faux chrétiens, parce que je sais que je vais tout y perdre. Pourquoi est-ce que Paul dit dans le 1er aux Corinthiens, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Parce que dans la même église de Corinthe, il y en avait qui cherchaient à corrompre les mœurs des autres. C'était un gros problème. Donc, nous, quand nous sommes dans l'Esprit Saint, nous refusons les impostures. Nous refusons le facsimilé, les ersatz de Saint-Esprit. Nous cherchons la véritable, le vrai Saint-Esprit, l'Esprit de vérité que nous avons reçu de Jésus et que nous voulons garder précieusement dans notre cœur. Mes yeux, vos yeux, sont tournés vers notre Dieu, sans cesse, les amis. Psaume 116. Sans cesse. Ne lâchons pas notre Seigneur. Le regard de nos cœurs doit être tourné vers lui continuellement pour rester fort, pour rester fidèle. Psaume 116, verset 9. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Psaume 116, verset 9. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout en mes trompeurs. Comment rendrai-je chez l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance, j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, ta servante, ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens, les liens de la tromperie du mensonge religieux. Pas de lien avec le faux. Rien que des liens avec le vrai. Et qui est le vrai? Jésus et le Saint-Esprit qui nous a donné. Regardons le psaume 106, verset 1. Louez l'Éternel car il est bon, car ses miséricordes durent à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Justice, c'est la sainteté, n'est-ce pas? Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple, que je me glorifie avec ton héritage. Vous voyez, la caractéristique même de quelqu'un qui est dans le Saint-Esprit, c'est qu'il aime voir le bonheur du Saint-Esprit chez les autres chrétiens. Il aime voir le bonheur des élus. Vous voyez bien, chaque fois qu'on écoute le message, qu'on se salue un peu avant ou après, nous avons ce bonheur. Nous nous réjouissons de la joie du peuple de Dieu. C'est notre joie en commun. C'est pour ça que j'ai pris au début cette prière en 2 Corinthiens à la fin. De 2 Corinthiens. C'est la joie du peuple. Et nous avons tous besoin de cette joie partagée, cette joie commune, fruit du Saint-Esprit. Qu'est-il dit dans Romains 14, 17? Le royaume de Dieu n'est ni le manger ni le boire, mais paix, joie et sainteté selon le Saint-Esprit. Alors, chers amis, n'oublions pas, nous avons un chemin merveilleux de bonheur intérieur, de bonheur qui s'exerce tous les jours dans la miséricorde envers nos frères et nos sœurs, dans l'humilité. Dans l'humilité, il ne faut jamais oublier que l'humilité est le trait qui accompagne la joie, qui accompagne la joie spirituelle. Au psaume 121, au psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Moi, je vois un équivalent dans Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 3. Ne vous affectionnez pas aux choses à terre, affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est la même chose. Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 3. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Vous voyez, mes amis, lisez le reste du psaume 121, ça vaut la peine. Ça, c'est la manifestation de l'autorité du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Dieu exerce sa surveillance et sa protection efficace. Voyons le psaume 125. Le psaume 125. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle l'affermit pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. L'ivraie ne restera pas. Toujours avec le blé, si vous voulez. Les chrétiens de la chair ne sont pas toujours là pour empoisonner la vie aux chrétiens spirituels. Le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Dieu viendra à notre secours. Attends. Sans doute viendra-t-il encore des épreuves sur notre monde, et que parfois des chrétiens spirituels pourraient dire « Oh, je vais faire comme les autres, j'en ai marre, je ne tiens plus. C'est trop difficile d'être chrétien, j'en ai ras-le-bol, je ne vois pas où Jésus est, je ne vois pas quand il va revenir, et je vais céder, je vais lâcher. » Non. Jésus sait à quel point vous pouvez résister à une tentation et ne permettra pas que ça soit au-delà de vos forces. Vous savez très bien, c'est dans la parole de Dieu. Et il arrivera au moment où il le faudra. Dans l'épreuve qui est aujourd'hui, ne lâchez rien à Satan. Ne lâchez rien au monde. Restez fidèles à l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Et vous êtes parmi les justes, eh bien restez justes. Qu'est-ce qu'il est dit dans l'Apocalypse ? Que celui qui se souille encore. Que celui qui est injuste, soit encore injuste. Que celui qui est pur, reste pur. Que celui qui est... Celui qui se sanctifie encore. Pourquoi ? Parce qu'il y a un terme où, vraiment, nous serons délivrés. Verset 4, psaume 125, verset 4. « Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu a l'autorité de mettre en enfer des personnes qui ont triché. Ça, c'est clair. Nous ne ferons pas le Dieu ne fera pas le détail. Nous n'y pouvons rien, c'est comme ça Dieu l'a décidé. Il y a ceux qui seront avec lui, parce qu'ils ont été fidèles jusqu'au bout, ils ont persévéré. Celui qui persévérera jusqu'au bout, Luc le dit dans Luc, Jésus le dit dans Luc, eh bien, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé, c'est clair, il faut persévérer. Et dans le Saint-Esprit, comment je peux persévérer ? Est-ce que c'est toujours en faisant des prières, en parlant de Jésus aux autres ? C'est aussi en lavant les pieds des autres. Si mon voisin a besoin que j'aille l'aider à faire des courses, si quelqu'un dans l'église est malade et qu'il a besoin d'une visite, si mon conjoint ne sait pas faire telle ou telle chose, c'est moi que je sais faire, je l'aide. Ce n'est pas toujours le même qui fait la vaisselle, ce n'est pas toujours le même qui lave le WC, ce n'est pas toujours le même qui balaye le trottoir. La fidélité au Saint-Esprit se fait dans tous les détails de la vie. Pas seulement dans les choses héroïques, annoncer l'évangile et prier, mais dans les choses humbles. Comme un servant, une servante, un serviteur peuvent le faire. Et donc l'œuvre du Saint-Esprit est globale. Elle nous attache à avoir un comportement global. Si nous voyons un réfugié, un étranger, et que nous le méprisons, c'est que nous n'avons pas encore obéi au Saint-Esprit. Si nous sommes du côté de ceux qui excluent les faibles, ou qui veulent tuer tous les riches, nous ne sommes pas encore fidèles au Saint-Esprit. Nous devons prier pour les riches, nous devons prier pour les pauvres, et nous devons tendre la main pour que tous ils renoncent au péché, tous ils viennent à Christ. Et si nous avons deux manteaux, il faudra donner un à celui qui en manque. Si un SDF loge sous une tribune de football ou sous un pont en hiver, que vais-je faire quand moi je suis dans mon lit, la tête sur l'oreiller ? Que vais-je faire ? Bonne conscience ? Ou je vais essayer de faire quelque chose de noble, de vrai, comme Jésus ? Donc, ma question est celle-ci. Est-ce que j'ai l'expérience du Saint-Esprit qui, chaque fois, me parle et me dit « Mais tu n'en as pas encore fait assez. Regarde, voilà ce que Jésus aurait fait s'il avait été à ta place. Regarde ce que Jésus te demande. Regarde. Et accepte de mon cœur. Tu seras joyeux. Tu seras heureux. » Finalement, quand on écoute le Saint-Esprit, je pense que le péché ne subsiste pas. Le péché est mis en échec. Quand on écoute le Saint-Esprit, quand on vit avec le Saint-Esprit, le péché n'a pas d'autorité. Bien sûr, nous avons encore des péchés. Mais nous ne sommes pas aveugles, nous savons que nous sommes imparfaits. Est-ce que dans ma chair, dans mon esprit, dans mon cœur, l'Esprit Saint est à l'œuvre ? Non pas en idée, mais en acte. En acte, en vérité. Et mon mode de vie intérieure, et mon mode de vie extérieure doit faire de deux mêmes. La vitre doit être propre de deux côtés pour voir clair. Lorsque nous lavons les vitres d'une maison, on les lave, on les nettoie de deux côtés. Si on a nettoyé d'un côté, l'extérieur ou l'intérieur, ça ne va pas. Il faut donc que la vitre soit transparente, que la vie du Saint-Esprit soit lumineuse pour tous et pour moi-même. Alors mon témoignage sera réel. Mon être nouveau sera visible, sans arrogance, sans haute opinion de moi-même. J'aurai une haute opinion de l'œuvre de Dieu. J'ai une haute opinion de mon maître. Je ne suis qu'un serviteur d'un maître, d'un bon maître. Jésus a enseigné pendant 40 jours ses disciples, il est monté au ciel. Pendant 10 jours, il les a laissés dans le lac. Que pouvait-il faire? Il leur avait promis le Saint-Esprit. Allait-il se décider à recevoir le Saint-Esprit et à vivre dans la vérité? Ils avaient 10 jours pour se prononcer et être dans le cénacle pour recevoir l'Esprit Saint de vérité. Nous-mêmes, nous pouvons nous poser la question, est-ce que c'est encore moi qui vis ou c'est Christ qui vit en moi? Est-ce que c'est encore moi qui vis ou c'est le Saint-Esprit qui dirige, qui me conduit? Nous devons être honnêtes en face de Dieu et en face de nous-mêmes, et des frères et des sœurs. Une église riche, c'est celle-là où tout le monde se fait pauvre et s'enrichit du grand maître, le grand pauvre. Jésus s'est fait pauvre parmi nous pour nous enrichir de sa pauvreté. C'est un verset dans la deuxième aux Corinthiens. Est-ce que nous allons aussi, de notre pauvreté, enrichir le monde? Notre pauvreté, habitée du Saint-Esprit, enrichit le monde. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs, et à dimanche, ou à lundi, suivant les cas. Que Dieu vous bénisse, et merci.